Et tout de suite, un programme en rediffusion sur VOA Afrique.
I have a dream.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Une Amérique qui est maintenant multiculturelle, multiforme.
One nation under God, indivisible, with liberty and justice for all.
Bonsoir à tous, Morgane Guerriec en votre compagnie. Bienvenue dans l'Amérique et vous. Ce soir, gros plan sur Aretha Franklin, la reine de la soul. S'est éteinte jeudi 16 août 2018 après une longue bataille contre un cancer du pancréas. Elle avait 76 ans. Retour sur sa vie, sa carrière, son engagement et bien sûr sa musique. Chers auditeurs, nous attendons vos commentaires. Quel est votre titre préféré d'Aretha Franklin par exemple ? Pour participer, appelez le 001 202 205 26 33 et pour ceux qui ont laissé leur numéro sur la page Facebook de VOA Afrique, nous commençons dès maintenant à vous appeler. Aretha Franklin, pour nous en parler ce soir, j'accueille Idrissa Seydoudia. Bonsoir.
Bonsoir Morgane.
Alors Idrissa Seydoudia, hein, c'est notre expert soul ici à VOA Afrique. Vous avez même présenté une émission hebdomadaire dédiée à ce genre musical. C'était Soul USA, donc on va apprendre plein de choses avec vous ce soir.
Bon, j'espère bien. En tout cas, c'est une musique qui m'a fasciné depuis, plus de 50 ans. Vous imaginez, par exemple, le premier succès d'Aretha Franklin a été enregistré en 1967. Ah. Ça fait combien d'années ? 51 ans ?
Oui, c'est ça.
Voilà. Alors... Je suis cette musique, effectivement, depuis ce temps, bien avant même, avec les Wilson Pickett et autres.
Vous êtes fan. Alors, pour se mettre dans l'ambiance, hein, je propose qu'on écoute d'emblée l'un des morceaux les plus connus d'Aretha Franklin. Il s'agit de « Respect ». Alors Idrissa, ce qu'il y a d'intéressant avec ce morceau, Respect, c'est qu'initialement, c'était un titre écrit pour être chanté par un homme.
En fait, celui qui l'a composé, l'a chanté, c'était le grand Otis Redding, vous imaginez. Mm-hmm. Et quand Aretha l'a repris, ça a été un succès foudroyant. Et Otis en était arrivé à ne même plus essayer de chanter cette chanson, ou bien même quand il essayait de chanter la chanson, il disait aux gens, mais vous voyez, cette petite m'a volé ma chanson, je n'ose plus. Mais en réalité, je ne me plains pas, il ne se plaignait pas dans la mesure où il y avait les royalties, parce que c'était un numéro un en pop et en R&B.
Oui, et jusqu'à aujourd'hui, hein, j'ai cru comprendre, il touche toujours de l'argent pour ce morceau, hein.
Exactement, enfin, disons c'est l'héritier.
Oui, voilà. Alors, mais quand même, il y a quelque chose d'un peu controversé, puisque cette chanson, à la base, c'est un homme qui demande à sa femme un peu de respect sous son toit. Et donc là, Aretha Franklin, quand elle chante, elle inverse les rôles. Et du coup, elle demande à son homme de la respecter dans la maison. C'est provocateur quand même, en 1967 à peu près.
Effectivement, c'était pour montrer l'égalité des droits et entre hommes et femmes qu'elle essayait de montrer dans cette chanson. Et en même temps, on pouvait aussi y voir sur le plan mouvement des droits civiques demander le respect pour l'homme noir, pour la femme noire, pour en tout cas toutes les minorités qu'il y avait dans ce pays, parce qu'on était en plein en ce moment-là, dans les années 60, dans le mouvement des droits civiques.
Oui, donc c'est un morceau finalement, hein, même si ce n'était pas l'intention de départ, mais qui est devenu un symbole pour ce mouvement.
Et pour bien montrer qu'elle exigeait, qu'elle demandait le respect, elle a étayé le mot respect. R-I-S-P-I-C-T. Et pour bien dire, mais si vous ne le comprenez pas, je vais vous le répéter. J'exige le respect en tant qu'être humain, en tant que femme, en tant que noire, ainsi de suite.
Allez, alors, on arrête un petit peu de parler. On va maintenant écouter I Never Loved a Man the Way I Love You. I never loved a man the way I love you. Vous me disiez précédemment que c'est son premier titre.
Effectivement, son premier gros succès, parce qu'auparavant, elle était avec la compagnie Columbia qui a essayé d'en faire une vedette pop, ça n'a pas marché. Il y avait en ce moment-là à Atlantic Records un certain Jerry Wexler qui était le vice-président de cette firme, et Jerry savait ce qu'il fallait faire. Il avait une vision pour RSA. Il voyait tout ce talent et il trouvait que c'était du merci, quoi, ce qu'on essayait de lui faire faire à Columbia. Alors, dès que le contrat d'Aretha a expiré avec Columbia, eh bien, Jerry Wexler l'a signé et l'a amené vers le sud, à Muscle Shoals. Et c'est à Muscle Shoals qu'elle est venue enregistrer ce morceau. Mais il s'est passé quelque chose d'assez extraordinaire à Muscle Shoals, parce que Aretha était accompagnée de son mari d'alors, un certain Ted White. Et pendant l'enregistrement, il y avait un trompettiste qui faisait les yeux doux à Aretha. Et naturellement, le mari n'aimait pas du tout ça. Alors ensuite, il y a eu de gros incidents entre le mari et Jerry Wexler, et aussi le propriétaire du studio qui était Rick Hall. Et finalement, ils ont plié bagages, ils sont repartis et il n'y avait que ce morceau, plus un demi-morceau qu'on appelle Two Right Women. Ils sont repartis à New York et les choses semblaient vraiment irrémédiablement compromis. Jerry Wexler avait ce morceau, mais il ne savait pas quoi en faire, parce qu'en ce moment-là, pour la nouvelle génération, parler de 45 tours, j'ai peut-être parlé de la lutte, c'est quelque chose, mais en ce moment-là, pour publier quelque chose, il fallait avoir deux plages, deux morceaux. Il s'était retrouvé avec ce morceau complet, mais il ne pouvait pas avoir un autre morceau pour pouvoir publier la chanson. Ce qu'il a fait, c'est tout simplement donner la chanson à des disques jockeys qui ont commencé à la jouer, et c'est finalement comme ça que ça a été un smash, comme on dit de nos jours.
Alors, vous mentionnez son mari, hein, alors j'aimerais qu'on rebondisse sur ça, parce qu'elle a quand même eu une vie amoureuse, une vie de femme assez tumultueuse, enceinte à 12 ans, victime de violences conjugales avec justement ce premier mari.
Ouais, Ted White.
Ouais.
Donc, alors finalement, effectivement, avoir un enfant à 12 ans, ce n'est pas facile, mais il y avait aussi le soutien de sa famille. Son père était un pasteur, C.L. Franklin, qui avait une grande église à Détroit, et d'ailleurs c'est dans cette église qu'elle a commencé à chanter du gospel, et elle a enregistré un album gospel, mais en ce moment-là, il y avait un certain Sam Cooke, qui faisait du gospel, qui était très célèbre, mais Sam a décidé de faire de la musique profane. C'est ce qui a inspiré pas mal d'autres chanteurs gospel, c'est ça qui les a inspirés et qui se sont lancés dans la musique profane, comme on disait aussi. Alors, il y avait quelque chose qu'Aretha aimait à raconter concernant, n'est-ce pas, sa décision de se lancer dans la musique profane. C'était Sam Cooke, bien entendu, mais ce n'est pas tout simplement parce que Sam Cooke était un très grand chanteur, mais il était beau gosse. Hein.
Ah, ça l'a inspiré.
Elle était sensible à ses charmes, en quelque sorte.
Alors, mais elle a commencé sa carrière très jeune, et puis vous avez mentionné son père, qui était pasteur, et paraît-il qu'il avait lui aussi une très très belle voix, et la maman aussi était chanteuse.
Oui, en fait, et aussi pianiste.
Oui.
Et je crois que donc, mais aussi, on raconte que très souvent, bon, il y avait beaucoup de personnalités noires qui passaient voir son père à Détroit, et il y avait Mahalia Jackson, la grande dame du gospel, oui. Et aussi, ça a été une personne qui l'a beaucoup aidé à perfectionner, si vous voulez, son talent.
Ouais. Alors, beaucoup d'histoires d'amour et beaucoup de chansons qui parlent d'amour aussi. On va écouter maintenant Do Right Woman.
Take me to heart. I'll always love you, and nobody can make me do wrong. Take me for granted, leaving love unsure. It's willpower. Strong. A woman's only human. You should understand. She's not just a plaything. She's flesh and blood, just like a man. If you want.
Idrissa, pourquoi, déjà de quoi parle cette chanson et puis pourquoi l'avoir suggérée?
Bah parce que effectivement c'était le demi-morceau, le morceau qui n'avait pas été terminé lors de sa seule visite à Muscle Shoals dans l'Alabama, à FM. Et quand elle est rentrée à New York, c'est elle-même qui a, comment dirais-je, terminé la chanson et c'était aussi un gros succès, quoi. Même si c'était, comment dirais-je, au verso de ce 45 tours.
Et c'est aussi quand même un peu, encore une fois, un plaidoyer pour le respect des femmes, j'ai l'impression.
Exactement, oui, exactement. À savoir que, bon, mais il faut le respect réciproque, en quelque sorte. Mm-hmm. C'est un avertissement à l'homme. À savoir que, bon, mais si tu ne te comportes pas d'une certaine façon, hein, crois-moi, ça ne va pas se passer aussi simple que ça.
Allez, on peut écouter un autre morceau maintenant, et c'est The House That Jack Built.
This is the house that Jack built, y'all. Remember this house. This was the land that he worked by hand. It was the dream of an upright man. There was a room that was filled with love. It was the love that I was proud of. This is the life that he planned. On the love, the same old love. In the house that Jack built. The house that Jack built. Remember this house. There was a fence that held our love. Yes, there was a gate that
êtes à l'écoute d'un programme en rediffusion sur VOA Afrique.
Alors Idrissa, j'imagine que sur ce titre-là, vous avez aussi des choses à nous raconter.
En fait, c'était un gros succès aussi, mais je l'ai suggéré tout simplement pour notre ami Firmin Lou de Kinshasa, qui adore ce morceau. Voilà.
Et de quoi il parle ce morceau?
Bah, tout simplement le fait que voilà, le monsieur qui a aidé à établir ce foyer, il n'est plus là. Et on le regrette. C'est une simple chanson d'amour.
Mais c'est une histoire vraie ou c'est complètement imaginé?
Non, mais vous savez, il y avait beaucoup d'imagination dans les chansons. On s'imaginait des tas de situations et on écrivait quelque chose autour de ça.
Alors, un autre titre que vous avez sélectionné, c'est « Bridge over Troubled Water ». On l'écoute. Oh, on dirait qu'on n'a pas ce morceau-là, c'est embêtant.
Ouais, mais peut-être qu'entre-temps, on pourrait parler du rôle d'Aretha. Vous y avez fait allusion au début, là, concernant le mouvement des droits civiques, Martin Luther King.
Oui, absolument, absolument, on peut très bien y revenir, parce que, d'après ce que j'ai compris, hein, même son père était proche de Martin Luther King.
Effectivement, et d'ailleurs, très souvent, on les voyait ensemble, faire campagne ensemble, et Martin Luther King, d'ailleurs, à sa mort, Aretha est allée chanter, et comme on l'a rappelé aussi, donc quand l'Amérique pleurait, elle était là, elle a chanté. Quand l'Amérique a réalisé un grand rêve, l'élection d'un président noir, c'est-à-dire l'élection de Barack Obama, elle était là aussi, elle a chanté. Alors, elle a joué un rôle très important et aussi, il faut le dire, très discret sur le plan financier pour aider le mouvement des droits civiques. Il y a le pasteur Al Sharpton qui disait récemment qu'elle l'appelait très souvent pour dire « Hey, Rev, tu peux me donner ton adresse là ?» Et bon, naturellement, il lui donnait son adresse et voilà un chèque qui est arrivé, comment dirais-je, chez lui. Et il rappelait aussi qu'à un moment donné, il y avait le mouvement des droits civiques de Martin Luther King qui avait des difficultés financières, puisque Martin Luther King s'était prononcé contre la guerre du Vietnam, ce qui n'était pas une position très populaire en ce moment-là. Alors la source était un peu tarie. Aretha est allée avec Harry Belafonte et d'autres grands chanteurs noirs américains faire des tournées pour collecter de l'argent pour réunir des fonds et aider Martin Luther King. On rappelle aussi que, et ça beaucoup de personnes ne le savent pas, dans les années 60, il y avait cette révolutionnaire noire américaine Angela Davis, pour sortir de prison, et elle avait besoin d'argent, d'une caution comme on dit ici, et c'est Aretha qui avait payé ça. Et voilà, donc, elle était vraiment très impliquée dans le mouvement, et même récemment, depuis le départ de Obama, elle appelait souvent certains shows, elle donnait son point de vue en prenant un pseudonyme. C'est ce que racontait aussi le révérend Al Sharpton.
Et elle a commencé d'ailleurs cet engagement très très tôt, puisque j'ai vu qu'elle n'était qu'une adolescente quand elle a suivi Martin Luther King dans sa tournée à travers les États-Unis.
Effectivement, et tout ça c'est à cause de son père qui était vraiment engagé dans le mouvement. Et bon, n'oubliez pas que aussi l'Église dans ce pays a joué un rôle extraordinaire. Martin Luther King, le pasteur Jesse Jackson, le pasteur Al Sharpton. Enfin, l'Église a joué un grand rôle parce que l'Église avait une certaine autorité morale aussi. Et l'Église préconisait la non-violence. Et donc, c'est pas étonnant que son père était engagé aux côtés de Martin Luther King pour affirmer et faire respecter les droits des Noirs.
Alors, je crois que ça y est, on a trouvé notre titre, Bridge Over Troubled Water. On écoute.
Thank you.
Over Troubled Water. Cette chanson, elle parle de quoi?
C'était une chanson de Simon & Garfunkel. Et en quelque sorte, ça dit, je suis là, je suis prêt à faire comme un pont, à m'étaler comme un pont pour que tu puisses traverser ces eaux, n'est-ce pas, troublées, et ainsi de suite. Mm-hmm. Et donc, il y a un côté gospel aussi, c'est une certaine image, montrer qu'on est là aussi pour faire preuve de solidarité, pour aider quelqu'un qui est en difficulté.
Oui, la générosité
alors,
qui revient.
La générosité, exactement, comme un pont, quand on veut traverser. Mais j'ai surtout pensé au piano. Vous avez vu une très belle intro là au piano. Oui. Et ça, c'était Aretha Franklin. Et ce que Jerry Wexler, dont je parlais au début, a découvert dès le début, à savoir qu'il fallait la laisser jouer de son instrument. Et sa mère lui a appris à jouer du piano. Et comme on peut le voir, c'était une virtuose aussi au piano.
Alors Aretha Franklin, elle est surnommée Queen of Soul, la reine de la soul. D'après vous, que lui vaut ce titre et surtout, qu'est-ce qui vous parle le plus dans sa musique?
C'est surtout l'émotion qui est là, n'est-ce pas? Et puis aussi la force de caractère, la résilience, si vous voulez, qu'on peut voir dans ce caractère, dans cette personnalité, dans ce personnage. Savoir que, la vie n'est pas très facile, et surtout quand on pense à une jeune fille qui a eu un enfant à 12 ans, et 2 ans après un autre enfant, mm-hmm. et qui devait faire face à différentes difficultés dans la vie, et elle en est sortie très forte.
Oui, avec grâce plutôt.
Avec aussi beaucoup de grâce.
Allez, on écoute Spanish Harlem. Alors, Spanish Harlem, parlez-nous un peu de ce titre.
Ça fait allusion à un quartier hispanique de New York. Et vous savez, il y a eu pas mal aussi de, comment on appelle ça, à Broadway, des pièces qui rendaient hommage justement aux particularités de ce quartier riche de New York pour montrer la diversité. Et là aussi, ça montre le talent de cantatrice, si je puis dire, Aretha Franklin. On l'a vu par la suite quand il a eu à remplacer comme ça des grands de l'opéra.
Idrissa, je crois que ce seront les mots de la fin. On se quitte quand même sur le titre Ain't No Way. Merci beaucoup pour votre analyse. À la production, on avait Cheikh Thuro.
C'est triste, mais qu'est-ce que vous voulez, c'est la vie.
C'est la vie, voilà.
C'est la vie.
Merci beaucoup, Idrissa. L'émission est terminée. À bientôt, c'était Morgane Guirec au micro.
Merci.
Vous étiez à l'écoute d'un...